Je suis au téléphone avec Hervé de General Electrics. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors, vous vous produisez à la Luciole à Alençon jeudi à 20h30. Vous êtes dans quel état d'esprit avant ce concert ?
Absolument ravi de monter sur scène, de pouvoir être avec des gens dans une salle qui vont être debout. Et même si toujours masqué, je crois, on va pouvoir faire la fête ensemble et on va pouvoir danser, sauter et retrouver cette vitalité dont on a tous un peu besoin, quoi.
Alors, si je peux vous annoncer une bonne nouvelle, normalement, c'est démasqué.
C'est démasqué, ok, bah c'est génial. On verra les gens sourire, c'est entendu, on les verra chanter aussi. Parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu spécial quand on a repris la tournée, c'était en novembre, là, suite à la sortie du nouvel album, Salut la Kikumine. C'est que les gens étaient masqués, donc encore à ce moment-là. Et il y a quelque chose d'un petit peu clonesque, quoi, où tout le monde a, on a la sensation que tout le monde a un petit peu la même tête. Il y a un côté dystopien là-dedans, donc c'est beaucoup plus agréable d'être face au visage des gens, de voir à quel point ils sont beaux quand ils sont contents.
Alors, General Electric, donc je le rappelle, hein, ce sera jeudi à la Luciole. Pour ceux qui connaissent pas encore, ça a débuté comment ?
Alors, ça a débuté il y a un petit moment maintenant. Au moment où moi j'ai déménagé aux États-Unis, c'était en 1999, donc ça remonte, hein, c'était à plus de 20 ans. Et c'était de là du défoulage, défouloir un petit peu musical. Je prenais mes claviers, mon ordinateur, un micro, puis je mettais toutes les choses que j'aimais, c'est-à-dire le funk, la soul, le jazz, la musique de film, la musique électronique, etc. Je mettais dans le sac et je secouais. Et puis, ça a fini par donner le premier album de General Electric qui est sorti en 2003 à l'époque. Donc, c'était quelque chose plutôt sur disque de l'ordre du projet solo. Et puis, sur scène, ça devient un groupe, c'est-à-dire que ce sont les quatre mêmes musiciens qui se joignent à moi. Donc, Eric Targzan à la guitare, Jesse Chaton à la basse et à la basse synthé, Thomas Milto qui est à la batterie, à la MPC qui est une boîte à rythme sampler qu'il joue avec les doigts, et puis Guillaume Lantonnet qui est aussi à la batterie puisqu'on a, on a deux batteries en fait sur scène, et mais qui est à la batterie ou au vibraphone ou aux percussions ou clavier additionnel selon les morceaux. Donc ça permet une espèce de set à géométrie variable. Et là, quand ça devient un groupe sur scène, l'idée c'est de réinterpréter les morceaux que moi j'ai fait sur album, mais de manière différente, de pas traiter les morceaux comme des espèces de versions sacro-saintes, mais au contraire de les violenter un peu, puis de faire quelque chose de très énergique et d'utiliser cette arme géniale au moment du concert, qui est l'instant partagé avec les gens qui sont dans la même salle avec nous, et qui est quelque chose de très différent du disque, puisque le rapport entre l'artiste et le public avec le disque se fait à distance, bien sûr, et pas au même moment. Cette énergie-là, l'énergie de l'instant, ça peut monter très haut et donner quelque chose de vraiment un petit peu comme un moment un peu exponentiel. Et c'est ça qu'on essaye de créer avec cette formation. Et chaque membre du groupe a une grande place sur scène. Et c'est important pour moi. Ça aussi, c'est pas juste Hervé Salter accompagné de quatre mecs derrière. C'est vraiment cinq individualités, aussi bien musicalement que juste dans leur manière de se tenir, leur prestance sur scène, etc. Et on arrive sur scène, on dégage une certaine énergie, nous, et ensuite, c'est au public de nous renvoyer quelque chose ou pas, ça dépend des soirs, en fait, et puis un petit effet miroir qui peut se créer, ou un gros effet miroir, et puis ça peut aller assez loin. L'idée, c'est de flotter un petit peu au-dessus du sol pendant une heure et quelques, et de laisser derrière soi ses soucis, etc., et d'être dans cette vitalité dont je parlais tout à l'heure, quoi.
Alors, vous les avez cités, vos collaborateurs ou musiciens, est-ce qu'ils vont intervenir dans la création de l'album ? Ou c'est vous qui proposez quelque chose et après ils l'adaptent, ou est-ce qu'ils ont écrit aussi des choses dans l'album ?
Non, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que comme le projet a commencé comme ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc comme une espèce de petit défouloir, quoi, et que c'était quelque chose de très libre en fait, qui est vraiment juste parti d'une envie un peu personnelle, je suis retourné vers ça au moment de faire le deuxième album, Good City for Dreamers, même s'il y avait déjà donc certains musiciens qui s'étaient joints à moi au moment de la première tournée. J'aimais bien cette idée-là, en fait, que le disque soit un petit jardin secret où moi, je peux juste faire exactement ce que j'ai envie de faire et mes petites erreurs à moi sans que personne me dise quoi faire ou quoi. Et au contraire, de retrouver cette énergie de groupe quand on part en tournée, quoi. Donc, tout ce qui est écriture, et puis de manière générale, cette musique-là, c'est quelque chose qui me vient plus qui vient de moi, mais ça vient de moi et du hasard, en fait. Enfin, ça vient de moi et des choses qui inspirent quelqu'un quand quelqu'un écrit quelque chose. Donc, c'est pas, même si ça peut sonner un petit peu perso, j'ai pas la sensation que c'est perso pour moi. Enfin, même si c'est un projet solo, quoi, sur disque. Mais c'est inspiré par plein de choses que je vis avec d'autres gens, et ça reste quelque chose de social.
Alors, 18 ans après la sortie du premier album, donc l'année dernière, vous avez sorti Party Like a Humans. Il y avait des artistes, énormément d'artistes d'ailleurs, qui étaient perdus pendant cette crise sanitaire. Vous, vous sortez un album en pleine crise sanitaire, ça a été vecteur d'inspiration pour vous ?
Oui, ça a été vecteur d'inspiration, oui. C'était pas la seule inspiration derrière le disque, mais effectivement, c'est quelque chose qui a eu un impact. Dans le sens où je me voyais mal faire un disque qui soit pas un espèce d'état des lieux, vu ce qu'on était en train de vivre avec la pandémie, avec aussi l'alerte rouge par rapport à ce qu'on fait à l'environnement, à notre planète, et la misère rampante, l'espèce d'individualisme exacerbé qui est engendré par le capitalisme hardcore dans lequel on vit, quoi. Et vu que, comme il y a eu une espèce de comment dire, comme si on avait appuyé sur le bouton pause avec la pandémie, moi personnellement, ça m'a donné envie de prendre un petit pas de recul et de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, quoi. Sans, je prétends pas du tout être un expert ou un prof d'université ou quoi que ce soit, mais disons qu'en tant qu'artiste, c'était important pour moi de refléter notre temps, quoi. D'essayer de refléter notre temps, mais pas de le faire tout seul non plus. Donc vous parliez du fait que j'écris, enfin vous posez la question par rapport à qui écrit les morceaux. C'est moi qui écris les morceaux, effectivement, mais sur ce disque-là, j'ai invité d'autres gens sur Party Like a Human, puisqu'il était question de se dire ça veut dire quoi d'être un humain au début des années 2020. Je voulais pas partir seul pour parler de ce qui me semble être nos angoisses actuelles, etc. Je voulais partir dans cette exploration à plusieurs, et donc en fait j'ai invité d'autres artistes qui sont soit des copains comme Latif the Truth Speaker, qui est un rappeur de la côte ouest, donc américaine, qui est un copain, quelqu'un que j'avais rencontré là-bas quand j'habitais là-bas, la chanteuse Seu, qui est une chanteuse brésilienne dont j'ai co-réalisé les deux derniers albums. Donc ça sont des gens que je connais très bien, et puis j'ai aussi invité des gens que je connaissais pas, mais dont je suis fan de l'art, comme Quelle Chris, qui est un autre rappeur, lui, de Brooklyn, ou bien Ariane Labed, qui est une actrice et réalisatrice que je trouve géniale, ou le guitariste Jeff Parker, qui est un guitariste de jazz et de post-rock américain, et qui joue le solo sur le morceau Humans Unite. Donc je voulais avoir un petit échantillon d'humanité avec lequel partir pour essayer de répondre à ces questions, mais c'est plutôt poser les questions que y répondre d'ailleurs, hein, et l'idée c'était donc d'avoir un disque qui est à la fois très dansant et festif, en fait, comme son titre l'indique, au niveau de la musique, mais plus sombre et plus inquisiteur au niveau du texte. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça. Il y a d'autres gens qui ont fait ça par le passé, notamment, je pense à Prince avec 1999, qui est un album, en fait, dont le texte sous-jacent est la peur du nucléaire au début des années 80, puisqu'il y avait cette peur de la bombe avec la guerre froide, etc. Et le morceau 1999 de Prince, qui est vraiment le morceau festif par excellence, puisque ça dit Tonight I'm gonna party like it's 1999. En fait, quand vous écoutez bien les couplets, ça parle de la peur de la bombe, quoi. Et j'aime beaucoup cette idée d'être sur quelque chose où on peut faire la fête tout en se posant un peu des questions, quoi.
Et justement, la fête, on va la faire, parce que là, si on part d'aujourd'hui, il vous reste 21 dates, à commencer par Nantes mercredi, si je me trompe pas. Quelles émotions ça vous procure d'avoir autant de dates et autant de concerts à venir ?
Je suis ravi. Je suis ravi. Il y en aura même plus, hein, parce que on va continuer à tourner après à l'automne, mais il y a des dates qui sont pas encore annoncées. En fait, encore une fois, on rangeait un petit peu notre frein, nous, pour ce qui est de remonter sur scène, puisqu'on a les derniers concerts qu'on avait fait avant la pandémie, c'était en 2019, à la fin de la tournée de l'album Carrie No Ghost. Et donc, ça faisait quasiment 3 ans qu'on n'était pas monté sur scène. Ça faisait 2 ans et demi, quoi, puisqu'on est remonté à l'automne 2021. Et c'était quelque chose qui nous manquait à tous beaucoup. Et le fait de pouvoir partager ça encore pendant de nombreuses dates, comme vous venez de le dire, c'est un vrai privilège, quoi. Et je prends pas ça à la légère. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien pour les disques que ça parte d'une envie. Et c'est important pour la scène aussi de bien réaliser à quel point on a de la chance de faire ça, de pouvoir partager des moments comme ça avec les gens, et que les gens nous laissent faire ça aussi et viennent voir ces concerts, etc. Donc je suis ravi vraiment.
Et vous, General Electric, vous avez une musique qui sort quand même de l'ordinaire, et ça fait du bien aussi d'avoir un peu de renouveau. Vous allez la puiser où, cette inspiration ?
J'essaye déjà de pas trop me répéter, même si je pense pas que ce soit vraiment totalement possible. En tout cas, moi, je sais pas comment faire pour se réinventer totalement à chaque disque, mais donc je pense qu'il y a peut-être une patte qui se dégage, mais en même temps, j'essaye aussi de pas de me surprendre moi, en fait, ou de laisser les choses me surprendre. Et donc, et encore une fois, je pense que une des clés provient du fait de d'essayer de pas trop tout contrôler. Aussi bien sur scène avec cet instant dont je parlais, et sur scène, ce qu'on fait nous par exemple, c'est qu'on n'utilise aucun séquenceur, il n'y a pas de laptop, il y a personne qui appuie sur play sur une machine, tout est joué par des doigts, quoi. Même s'il y a certains sons électroniques, on mélange des sons très organiques, guitare électrique, etc., avec des sons plus électroniques, certaines choses qui sont jouées sur un sampler, par exemple, un échantillonneur, mais tout est joué, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de préprogrammé. Donc, quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes ouvert à l'idée que les tempos vont être différents soir après soir, que les choses vont pas être super contrôlées, quoi. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Et c'est important aussi au moment de concevoir la musique, de laisser les accidents arriver, de laisser venir les choses et de pas trop essayer de contrôler les choses. Et pour revenir à votre question, ce qui m'a toujours intéressé ou attiré dans la musique ou dans l'art en général, c'est la liberté, moi. Et donc, le concept de suivre des codes de genre, c'est-à-dire se dire ok, là je vais faire juste un disque de rock en utilisant les codes du rock, ou faire un disque de chansons françaises en utilisant les codes de chansons françaises, etc. Personnellement, m'a jamais vraiment attiré. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aiment faire ça, et j'ai mis aucun jugement là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment juste faire ce qui vous vient, quoi. Mais moi, ce qui me vient personnellement, c'est de mélanger toutes les choses que j'aime, donc aussi bien le funk. Je suis claviériste à la base, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé avant de commencer General Electric, c'était de jouer du funk au clavier. Le funk, mais aussi l'énergie rock qu'on retrouve beaucoup sur scène avec General Electric, avec des sonorités plus électroniques, le hip-hop aussi, je suis très fan de hip-hop, donc il y a au niveau de la programmation des rythmes, etc., il faut aller chercher par là-bas pour ce qui est de mes influences. Je parlais tout à l'heure de la musique de film aussi, ou même de la musique classique du XXe siècle, la musique contemporaine. J'essaye de pas choisir, en fait, et l'idée, c'est d'être aussi libre que possible au moment en tout cas de la première étincelle qui vous vient, au moment où un morceau vous vient. Et après, l'idée, c'est de laisser le morceau vous emmener là où il a envie de vous emmener, tout en, il faut quand même qu'il y ait un minimum de contrôle, dans le sens où il faut que vous mettiez aussi votre chapeau d'arrangeur et réalisateur pour que le tout ait un sens au bout du compte. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire, je suis toujours assez fan, moi, du concept de l'album. Donc avec un espèce, pas nécessairement un narratif littéral qui vous raconte une histoire du premier morceau au dernier morceau, mais en tout cas qui a un sens général aussi bien au niveau son qu'au niveau du texte sous-jacent principal. On parlait des angoisses actuelles là pour ce qui est des textes, et donc de en même temps se laisser porter par chaque morceau pour qu'il ait sa petite personnalité, quoi, et puis faire en sorte de jauger les ingrédients dans chaque morceau pour qu'à la fin, l'album fasse un tout.
Justement, ça me permet de rebondir. On vous catégorise sur Internet dans un style musical d'électro-pop, soul, jazz, rock. Donc là, on peut bien confirmer que vous ne catégorisez pas du tout dans un genre musical.
Voilà, c'est ça, ouais. Et je comprends très bien que de manière générale, on a envie, en tant qu'humain d'ailleurs, de mettre des étiquettes et d'une manière de décrire, en fait, ce que je comprends très bien. Mais je pense qu'en fait, la musique, ça va au-delà des catégories, quoi. En fait, c'est juste des notes. C'est une manière de remplir l'air avec des vibrations, des sons, et qui vont dans les oreilles des gens. Et tout ça, c'est très, très libre, en fait. Et donc, l'idée de mettre des étiquettes pour faire rentrer tout ça dans une case, etc., même si c'est un travers humain complètement compréhensible, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, moi, parce que la musique, ça peut vraiment être quelque chose de très fluide, et donc c'est ce que j'essaye de faire, moi, avec mes limitations à moi, quoi. Mais effectivement, non, c'est pas une musique de genre.
Dans vos clips et sur votre site internet notamment, on va beaucoup retrouver le monde du dessin animé. Est-ce que c'est un choix artistique de votre part ?
Ouais, de manière générale, j'aime bien l'idée que les visuels dans GE soient comme un trampoline pour que quelqu'un s'exprime, quoi, artistiquement parlant. Donc ça peut être soit ça peut être effectivement un animateur à qui je vais confier le fait de faire un clip, et on va parler du concept, et puis c'est la personne ensuite va prendre ce concept et en faire quelque chose de très personnel. Donc ça peut donner effectivement des clips animés, ou ça peut être des clips plus où on nous voit nous, par exemple le clip de Different Blue, on voit tout le groupe qui est réalisé par mon frère donc Arnaud Salters. Mais là aussi l'idée était c'était ce que j'avais dit à Arnaud, c'est lâche toi autant que possible sur le track quoi. Et donc ce que j'aime bien c'est donner une plateforme pour d'autres gens pour qu'ils s'expriment en fait, puisque moi je m'estime extrêmement heureux d'avoir une plateforme avec qui me permet de m'exprimer. Vu que je suis dans une position où je peux permettre aussi à d'autres gens de s'exprimer avec la vidéo, j'essaie de faire ça. Et c'est vrai que souvent ça peut aller vers l'animation, et tout particulièrement sur ce nouvel album parce que ça me semblait avoir du sens par rapport à la pochette aussi du disque, qui est une pochette qui est une illustration, en fait une peinture qui existait avant l'album, une peinture d'une artiste italienne qui s'appelle Laurina Papellina, que j'adore, qui fait une espèce de pop art très acidulé, très criarde, et un peu inspirée par l'œuvre de Hieronymus Bosch. Je sais pas si vous voyez son tableau Le Jardin des Délices, par exemple.
Oui.
Et donc elle fait une espèce de version de ça, c'est-à-dire comme elle utilise des icônes de la culture populaire et qu'elle détourne complètement et elle les met en scène dans une espèce de
C'était l'extrait de l'interview de Hervé, créateur et membre du groupe General Electrics.